L'impression d'un saut dans l'inconnu. De Paris à Berlin, de Pyongyang à Téhéran, passant par Moscou et Jérusalem, le monde retient son souffle. Joe Biden et Donald Trump ont peu évoqué les questions internationales durant leur meeting, et pourtant toute la planète a les yeux rivés sur eux. Toujours plus fort dans l'adversité, Donald Trump fait même des critiques venues de l'étranger, un argument de campagne.
Ils veulent tous me voir partir. La Chine veut que je parte, l'Iran veut que je parte, l'Allemagne veut que je parte. Ils veulent tous que je parte. Mais nous sommes là, non ?
Face au candidat républicain qui s'affiche en dur à cuire sur la scène internationale, le démocrate Joe Biden tente de retourner la situation en sa faveur.
Quand Donald Trump a pris la parole à l'ONU, les dirigeants étrangers ont ri à gorge déployée. Quand avez-vous vu un président des États-Unis moquer ouvertement comme ça aux Nations Unies ou lors d'une conférence de l'OTAN ?
Soutenu par l'ancien président Barack Obama, Joe Biden promet un retour du monde d'avant.
Je serai un président solidaire de nos alliés et amis. Et je dirai clairement à nos adversaires, le temps des flirts avec les dictateurs est révolu.
Quand Joe Biden plaide pour le multilatéralisme et une économie décarbonée, Donald Trump préfère lui vanter les mérites des énergies fossiles, quitte à enterrer une deuxième fois l'accord de Paris sur le climat.
Un vote pour Biden, c'est un vote pour interdire la fracturation hydraulique, interdire l'exploitation minière, mettre un terme à vos projets individuels.
À l'heure du réchauffement climatique aux tensions avec l'Iran, en passant par la guerre commerciale avec la Chine, le résultat de l'élection de demain peut-il changer la marche du monde ? Les cartes seront-elles vraiment rebattues en cas de victoire de Joe Biden ? Ou la première puissance diplomatique et militaire continuera-t-elle de se retirer des affaires du monde ?
Toi, l'élu, avec la crise économique qui s'annonce, les États-Unis auront-ils encore les moyens d'être partout dans le monde ? Alexandra Dubschefer, si on fait un bref bilan de la situation sanitaire et économique, la Covid-19 a fait plus de 230 000 morts aux États-Unis et le taux de chômage s'est envolé ces derniers mois. Est-ce que ce n'est pas ça qui va accaparer le nouveau président, quel qu'il soit, plus que n'importe quelle situation extérieure, que n'importe quel autre front, que ce qui se passe à l'intérieur même du pays ?
Bien sûr, on aura, je pense, un leadership américain beaucoup plus introverti, beaucoup plus tourné sur exactement ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire la gestion de la crise sanitaire, mais aussi ce que nous connaissons aussi de ce côté de l'Atlantique, en Europe et en France, les implications économiques et sociétales de cette crise sanitaire. Donc, que ce soit un Biden ou un Trump, on aura de toute façon une Amérique qui sera beaucoup de facto, beaucoup plus en retrait sur la scène internationale.
En retrait, certes, et pourtant, en matière de politique internationale, c'est vrai qu'il y a un domaine dans lequel Donald Trump n'a pas lésiné sur la dépense. Vincent, c'est le budget de la défense et c'est votre chiffre du jour.
Oui, c'est un chiffre record, c'est une somme record, 2649 milliards. Hein, c'est la somme allouée par Donald Trump au budget de la défense au cours de ces 4 années de présidence. C'est 16% de plus par rapport au dernier mandat de Barack Obama. Jamais un président n'a été aussi généreux. Et le paradoxe, pourtant, Corentin Célin, c'est que jamais un président depuis 32 ans, depuis Ronald Reagan, n'a pas engagé son armée dans un nouveau conflit durant son mandat. Alors est-ce que si Joe Biden est élu, il poursuivra dans cette politique de retrait international de la première puissance militaire du monde ?
Alors je pense qu'il faut d'abord rappeler que cette politique de retrait que vous évoquez, elle a commencé avec Barack Obama. Mmh. Et d'ailleurs, Joe Biden lui-même était l'homme, durant la présidence Obama, qui a plaidé pour le retrait d'Afghanistan. On sait que depuis 2009, Joe Biden a toujours plaidé pour le retrait d'Afghanistan. En fait, on a une analyse commune entre les deux hommes, qui est de dire les États-Unis ne peuvent plus être les gendarmes du monde, mais avec deux options complètement différentes pour y répondre. Joe Biden va sans doute réactiver les alliances, va réactiver le système multilatéral pour que les États-Unis ne soient pas tout seuls à supporter le fardeau de la régulation démocratique, tandis que Donald Trump, on l'a vu pendant 4 ans, est sur une option nationaliste où les États-Unis se resserrent sur leur intérêt national strictement compris et pas sur les intérêts de leurs alliés.
Alexandra Dubschefer, c'est vrai qu'en la matière, en termes de retrait en tout cas, et de retrait notamment militaire de la scène mondiale, il y a une vraie filiation entre Barack Obama et Donald Trump.
Absolument. Il y a vraiment une volonté de fermer le chapitre après 11 septembre 2001. Vous vous rendez compte que ça fait presque 20 ans, finalement, que l'Amérique est dans cette guerre dite contre le terrorisme, accaparée financièrement, politiquement, domestiquement, militairement dans ces conflits. Et donc là, que ce soit Biden ou Trump, il y a vraiment une volonté de mettre fin à ces guerres sans fin, comme ils le décrivent d'ailleurs tous les deux très bien. Mais je dirais, il y a une volonté de retirer les États-Unis du rôle de gendarme militaire du monde, mais de mettre l'accent, comme l'a fait déjà Obama et Trump encore plus, l'accent sur le rôle de gendarme économique et financier du monde, en mettant l'accent sur les sanctions, en jouant aussi avec l'extraterritorialité de la justice américaine. Ce sont ces outils-là que l'Amérique, depuis Obama, n'ont cessé d'utiliser et sans doute de surutiliser pour essayer d'influencer et de peser face aussi bien aux alliés des États-Unis qu'à leurs adversaires.
Vous évoquez les sanctions à l'instant. Et justement, Vincent, il y a un pays où on regarde l'hypothétique défaite de Donald Trump avec un grand intérêt, c'est l'Iran.
C'est l'Iran, oui, parce que là, c'est un sujet où Donald Trump et Barack Obama étaient carrément opposés. On se souvient que c'était le succès diplomatique de Barack Obama, cet accord nucléaire avec l'Iran, accord que Donald Trump a défait. Et aujourd'hui, l'Iran pose ses conditions avant l'élection présidentielle américaine. On regarde le porte-parole du gouvernement iranien.
Nous serions heureux qu'un président américain revienne sur cette décision. Mais s'ils reviennent dans l'accord sur le nucléaire, les États-Unis doivent être conscients qu'ils seront tenus responsables des dommages qu'ils ont causés au peuple iranien pendant la période où ils se sont retirés de l'accord. Et bien sûr, ils devront aussi fournir d'autres garanties concernant un nouveau retrait sur l'accord.
Corentin Célin, est-ce qu'on peut dire que les mollahs votent Joe Biden ?
Oui, alors évidemment, pas dans cette formulation-là, mais incontestablement, pour le régime iranien, plus rien n'est possible avec Donald Trump. C'est vraiment une guerre souterraine et parfois même avec des aspects déclarés. Il ne faut pas oublier que, par exemple, les derniers accords dont Trump a fait la promotion au Proche-Orient, par exemple, entre les Émirats arabes unis et Israël, sont faits contre l'Iran. Avec Trump, il n'y a plus rien de possible pour Téhéran. Avec Biden, on peut espérer revenir à l'esprit de 2015.
Mais c'est-à-dire un accord en l'état où on renégocie tout point par point?
Alors, le problème, c'est que, comme on vient de l'entendre, le régime iranien va jouer le rôle de la victime diplomatique. Oui. Il ne faut pas oublier que l'administration Trump a décidé unilatéralement de se retirer de l'accord de 2015. Eh bien, les Iraniens vont dire maintenant, si les Américains reviennent, il faut qu'ils viennent à Canossa et qu'ils fassent amende honorable. Et donc, les Iraniens, et on l'entend déjà, avec une administration Biden, se mettront en position de force de négociation.
Et Alexandra Dobchauffeur, une administration Biden qui se rapprocherait, qui essaierait de se rapprocher de Téhéran, de renouer un lien en tout cas avec l'Iran, un lien plus apaisé, ça poserait un autre problème peut-être aux États-Unis dans la région, c'est le lien avec l'Arabie Saoudite. On peut imaginer que là, les Saoudiens verraient ça d'un mauvais œil.
Oui, bien sûr. Là, ce que Trump a réussi à faire, finalement, c'est d'encercler l'Iran encore plus en signant, en faisant ces deals entre Israël, les Émirats arabes unis, le Bahreïn. Potentiellement, il y avait l'Arabie saoudite qui était peut-être la prochaine sur la liste à coup de vente de F-35. Tout ça, c'est bien sûr négocié contre des armements supplémentaires américains. Donc, ce qu'il a réussi à faire, c'est consolider finalement cet encerclement de l'Iran. Là, sur ce plan-là, Biden, s'il est élu, ne pourra pas défaire cela, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qui est maintenant ancré, sur lequel il ne va pas revenir. Mais ce que ferait un Biden, c'est effectivement essayer d'abord de renégocier avec les Européens, mais aussi avec la Chine et la Russie, ce nouvel accord nucléaire iranien. Ce ne serait pas le même, mais ce serait un accord qui finalement irait assez dans le sens de ce que la diplomatie française a promu, c'est-à-dire d'essayer d'élargir cet accord aux autres piliers qui n'ont pas été inclus dans l'accord actuel, c'est-à-dire notamment le comportement de l'Iran dans la région et sa capacité aussi à déstabiliser finalement plusieurs terrains de la région.
Et merci Thibault Nolte.
Corentin Célin, Joe Biden a dit qu'il ne reviendrait pas sur la décision de Donald Trump d'avoir transféré l'ambassade d'Israël à des États-Unis pardon, à Jérusalem. Est-ce qu'en revanche, sur la question palestinienne, on peut assister à un changement de ligne en cas d'élection du candidat démocrate ?
Il y aura un changement de ligne car c'est prévu dans le programme démocrate qui a été endossé à la convention. Simplement, on a un vrai problème parce que Joe Biden a toujours été sur une ligne quand même plutôt pro-israélienne que reflète bien sur sa décision de ne pas revenir sur le déplacement de l'ambassade. Et il est maintenant aux prises dans le Parti démocrate avec les jeunes progressistes, en particulier menés par Alexandria Ocasio-Cortez, qui sont beaucoup plus fermes sur les exigences envers Israël. Et d'ailleurs, au mois de juin, certains élus de la Chambre démocrate proposaient de conditionner l'aide militaire des États-Unis à Israël à la fin de la colonisation et à la fin de l'annexion, à l'arrêt de l'annexion de la Cisjordanie. Et donc, on voit bien que de ce point de vue, Joe Biden aura un vrai problème politique interne à régler entre sa position personnelle et la position des démocrates actuels qui sont beaucoup plus favorables à la cause palestinienne qu'autrefois.
Alors il y a un sujet lui aussi de portée internationale sur lequel là il y a des différences majeures entre les deux candidats, Trump et Biden. Nadia, c'est l'enjeu climatique.
Ouais, en effet, c'est deux salles, deux ambiances, puisque d'un côté on a Joe Biden qui prévoit d'intégrer l'urgence climatique dans, je cite, sa politique étrangère et son approche du commerce. Il s'est engagé par exemple sur un objectif de neutralité carbone pour 2050. Il a surtout prévu un budget de 2000 milliards sur 4 ans. Il veut aussi et surtout ramener les États-Unis dans les accords de Paris. Il a même fait savoir que ce sera probablement l'une des premières choses qu'il fera une fois installé à la Maison-Blanche. Alors quant à Donald Trump, évidemment, la COP21, c'est plus du tout un sujet. Et c'est d'ailleurs après-demain que sa décision de sortir les États-Unis des accords de Paris va prendre effet. C'est tout un symbole sur le calendrier. Il faut voir également ce que prévoient les autres grandes puissances sur le sujet, et en particulier sur la question de la neutralité carbone. Alors pour rappel, la neutralité carbone, ça consiste pour un pays à ne pas émettre plus de gaz à effet de serre qu'il ne peut en absorber. Et alors là, en ce moment, tout le monde est écolo, en tout cas sur le papier. Début octobre, c'est l'Union européenne qui a acté ce projet de neutralité carbone pour 2050. Le Japon lui a emboîté le pas. La Chine est un tout petit peu moins ambitieuse parce qu'elle s'engage à la même chose, mais pour 2060. Alexandra Dobschaeffer, tout ça, c'est très réjouissant. Si Biden est élu et que tout le monde tient ses promesses, ça veut dire que la planète est sauvée.
Ça veut surtout dire effectivement qu'on aurait une approche radicalement différente de celle de Trump, hein, et qu'effectivement une des premières décisions qui serait relativement facile à prendre par un président Biden serait de revenir dans les accords de Paris. Mais là aussi, il y a une dimension en fait politique extérieure, intérieure, qui sont complètement liées, puisque son projet aurait effectivement des répercussions considérables à la fois pour les entreprises et les consommateurs, notamment dans les États charbonniers qui ont voté pour Trump en 2016. Hein. Et d'ailleurs, un des passages qui m'est paru particulièrement frappant dans le dernier débat qui a opposé Biden et Trump a précisément porté là-dessus, où Trump a finalement fait prendre à Biden un risque politique en le poussant à finalement valider effectivement cet engagement en faveur d'une politique très forte et ambitieuse en termes de changement climatique. Et là, effectivement, ça pourrait avoir un impact dans ces États charbonniers qui dépendent du pétrole et du charbon.
Sur l'emploi.
Et, voilà, et sur l'emploi, et pour lesquels le discours de Biden pourrait représenter un risque économique.
Corentin Célin, dans l'hypothèse de la réélection de Donald Trump, pour le coup, est-ce qu'on pourrait s'attendre et redouter à une nouvelle période de tension accrue entre Washington et Pékin, à un affrontement qui prendrait entre les États-Unis et la Chine une dimension encore supplémentaire, notamment évidemment sur le plan commercial?
Oui, on peut tout à fait l'attendre pour au moins deux raisons. Premièrement, peut-être qu'on l'oublie un peu en France, mais dans cette fin de campagne, les attaques contre la Chine sont vraiment...